Centrafricain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, les enfants sans identité. À la naissance, ils ne sont pas déclarés à l'état civil, on les appelle aussi les enfants fantômes. Près de 230 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde n'ont pas été enregistrés à la naissance. L'UNICEF, qui sort aujourd'hui un rapport sur les enfants les plus défavorisés de la planète, explique que ces enfants sont aussi ceux qui sont privés d'éducation par la suite. Alors, quelle solution pour simplifier les procédures, sensibiliser les familles afin de donner un avenir à ces enfants? Nous allons en discuter aussi avec le Bureau international catholique pour l'enfance. Bonjour Olivier Duval.
Bonjour.
Vous êtes président du BICE, donc ce Bureau international catholique pour l'enfance, qui est une ONG de protection de la dignité des droits de l'enfant. Nous attendons bien sûr, quant à vous les voisins, vos réactions. Vous aurez la parole en deuxième partie d'émission, mais appelez-nous dès maintenant. Camille attend vos appels au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Mais tout de suite, pour comprendre à quoi sont condamnés ces enfants sans identité et puis surtout de quels dysfonctionnements ils sont victimes, Charlie Dupio, notre reporter, s'est rendu au Sénégal où près d'un quart des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance. Au cœur de la Casamance, c'est même un enfant sur deux qui n'a pas d'identité, comme à Kolda.
J'ai 15 ans, je m'appelle Ruki Saro. Depuis que je suis née, je n'ai pas été à l'école parce que je n'ai pas eu d'extrait de naissance. Si on n'avait pas d'extrait, on refusait de nous inscrire à l'école. Mon oncle m'a appelé à Dakar pour qu'on m'inscrive à l'école. Après là, on a constaté que ma maman n'a pas d'extrait de naissance, mon père encore ne l'a pas. J'ai dit à mes parents de faire pour moi un extrait de naissance, mais ils ont dit que c'était trop cher et c'est la cause pour laquelle je n'ai pas étudié.
Tu ne sais donc pas lire ni écrire?
Je ne sais ni lire ni écrire. Chez moi, il y avait énormément de personnes que j'ai connues qui n'ont pas d'extrait de naissance. Mon frère n'en a pas. Le cadet n'a pas. Et il y a 4 personnes dans la maison qui n'en ont pas. Il y a certains, les enfants, les petits, qui sont à l'école jusqu'à l'âge de CM2. Si on ne règle pas leurs extraits de naissance, ils sont obligés d'arrêter l'école.
Qu'est-ce que tu fais de tes journées aujourd'hui?
Dans la journée, je balaye, je nettoie, j'aide la maman de préparer le repas. Après là, je ne fais absolument rien. Je suis là assise comme ça, aller regarder mes amis et rester comme ça. Toutes mes amies vont à l'école.
Tu as les larmes aux yeux.
Si tu n'apprends pas, tu n'es pas libre. Le fait que je ne suis pas entrée à l'école, je n'ai pas fait les bancs, ça me fait mal, ça me choque au cœur. Parce que c'est très difficile de vivre maintenant sans apprendre, sans rien savoir.
Qu'est-ce que tu aimerais faire là, plus tard?
Pour l'instant, je n'ai pas de choix. Plus tard, quand je serai maman, je ne voudrais pas que mes enfants subissent le même sort que moi. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école parce que je n'ai pas eu d'extrait de naissance. Et je ne veux pas aussi que mes enfants n'aillent pas à l'école juste parce qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance.
Charlie Dupio, cette jeune fille de Kolda qu'on vient d'entendre au Sénégal, ne pourrait-elle pas, même si elle a été privée d'éducation, s'inscrire dans un centre de formation professionnelle?
Non, en fait, elle ne peut même pas s'inscrire dans ce qu'on appelle un CRETEF, un centre de formation professionnelle qui propose des cours de coiffure, de cuisine ou même de couture, car pour ça aussi, il faut un acte de naissance. Alors, ceci dit, la situation évolue, les écoles primaires acceptent maintenant ces enfants sans identité, mais ils se retrouvent bloqués en classe de CM2, dans l'impossibilité de passer leur examen de fin d'études primaires, faute d'acte de naissance. Et c'est un vrai scandale, en fait, qui a éclaté en 2015, quand les autorités ont recensé 53 000 enfants dans cette situation en CM2. Alors, l'État sénégalais, sous la pression d'organisations internationales comme l'UNICEF, a pu régulariser la situation de la plupart d'entre eux in extremis.
On a dit finalement pendant des années, tout le monde à l'école, éducation universelle, finalement sans se poser la question de la déclaration des naissances.
Voilà, exactement. Et puis en Casamance, la situation est encore pire que dans le reste du pays. Le conflit armé qui dure depuis des décennies a déplacé des milliers d'habitants. Il a même détruit des centres d'état civil il y a quelques années. Alors j'ai suivi un groupe de lycéens engagés de Kolda qui bénévolement vont repérer les enfants sans identité de la ville pour les enregistrer à l'état civil. Un groupe mené par Sylvie, élève de première, 17 ans, jean moulant à paillettes, foulard noir et un dynamisme étincelant. Elle m'a aussi servi d'interprète.
Nous sommes en train de faire une visite à domicile pour discuter avec les parents et les jeunes sur l'état civil, les jeunes qui ne sont pas enregistrés dès leur naissance. Ils se disent « c'est pas grave ». L'important, c'est de tuer un mouton à la naissance et de faire le baptême, donner le nom. Jusqu'à présent, ils ne sont pas conscients de l'importance de ce papier.
Qu'est-ce que vous faites en général pour ces enfants-là, notamment ceux qui vont bientôt passer l'examen de fin d'études primaires?
On les repère, on prend leur nom, on prend le numéro de carte d'identité de leurs deux parents, on amène ça à la mairie. Ce sont les maires qui gèrent ça. Ils vont faire des urgences foraines pour que les enfants puissent avoir des extraits de naissance malgré leur âge.
Une audience foraine, en fait, c'est quand un juge se déplace dans une localité où on a un certain nombre d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance et ordonne, par un jugement, de nouveaux actes de naissance pour ces enfants-là.
Oui, c'est ça. Et quand l'enfant n'a pas d'extrait de naissance et qu'on se rend compte que ses parents aussi n'en ont pas, on peut prendre les papiers de son tuteur, une tante, un oncle qui gère l'enfant maintenant, qui est en quelque sorte son parent.
Donc en fait, là, on est dans un quartier qui est traversé par de la piste. En fait, pour aller d'une maison à l'autre, il faut passer par des pistes en sable. On voit du linge étendu. Certaines maisons ont accès à l'électricité, d'autres n'ont pas l'air d'avoir l'électricité. Donc là, on rentre dans une maison. On voit trois cases en torchis avec des toits en paille.
C'est là où habite la jeune fille qui était obligée d'arrêter ses études parce qu'elle n'avait pas d'acte de naissance. Cela.
Bonjour. Vous avez un bébé?
Ah. Oui, c'est mon fils. Il a 5 mois.
Et toi, quel âge tu as?
J'ai 15 ans. Je suis née à Kolda. J'ai arrêté mes études en classe de CM2 parce que je n'avais pas d'acte de naissance. Je suis née dans la maison. Mes parents ne s'étaient pas occupés de cela lorsque j'étais née. On m'avait averti très tôt, avant même d'être en classe de CM2, que je ne pourrais pas faire mon examen sans mon acte de naissance. J'en ai parlé à ma maman. Ma maman a voulu le faire, mais après, elle était contrainte par des problèmes d'argent. J'étais triste, je pleurais quand je me mettais à l'idée que tous mes camarades de classe vont passer l'examen de CM2 et que moi, j'étais obligée d'arrêter parce que je n'avais pas un acte de naissance. J'aimais l'école, je préférais rester à l'école. Parfois, il m'arrive de penser à mes amis, mes camarades de classe. Et je me rappelle des moments où on s'amusait aux heures de récréation et des moments où on faisait des travaux de groupe ensemble. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté d'étudier.
Qu'est-ce que tu as fait en 5 ans? Là, les 5 dernières années qui sont passées.
Je n'ai rien fait, je suis revenue à la maison et je passais mes journées sans rien faire. Dans ces 5 années, j'ai eu à me marier et avoir un enfant. C'est cette année même que je me suis mariée. Je me suis mariée avec mon cousin. C'est lui qui est venu me demander un mariage et j'ai accepté. Et je m'étais dit pourquoi pas, puisque je ne suis pas à l'école. Je ne suis plus à l'école.
Si tu avais pu continuer l'école, est-ce que tu sais ce que tu aurais voulu faire plus tard comme métier?
Si j'avais pu terminer mes études, j'aurais pu être enseignante.
Une enseignante? Pourquoi une enseignante?
Parce que j'étais concentrée sur mes études et je savais que j'allais pouvoir être une enseignante. J'étais souvent parmi les deux premières de la classe, oui.
Bonjour madame. Alors c'est vous la mère?
Je suis la mère d'Aminata. Mon mari est maçon et moi je suis commerçante. Je vends du poisson.
Aminata du coup a dû arrêter l'école au moment du CM2. Pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas fait un acte de naissance?
Je sais que ce document est cher, même si je ne connais pas le prix exact. Je n'ai jamais eu la chance d'accoucher à l'hôpital. Tous mes enfants sont nés ici, à la maison, parce que mon mari et moi, nous n'avons pas d'argent. J'ai toujours préféré accoucher à la maison plutôt que d'aller à l'hôpital, de ne pas pouvoir payer les ordonnances prescrites et que tous les gens là-bas sachent que nous sommes pauvres. Et puis après, je n'ai pas fait la démarche pour enregistrer Aminata à l'état civil.
Comment vous le vivez ça? Comment vous vous sentez par rapport à ça?
C'est vrai qu'Aminata a arrêté l'école parce qu'elle n'avait pas d'extrait de naissance. Ce n'est pas de ma faute, ni celle de son père. C'est dû au manque de moyens. Nous pensons au futur de nos enfants, mais là, il valait mieux saisir l'occasion qui se présentait, le fait qu'on puisse la marier.
Combien d'enfants est-ce que vous avez?
J'en ai 8. Mon aîné a 23 ans et la cadette, 2 ans. Aucun n'a d'acte de naissance. Ils sont tous nés ici à la maison. La plupart vont à l'école. Mais c'est évident, comme ils n'ont pas d'acte de naissance, ils ne pourront pas dépasser la classe de CM2.
Cette mère de famille sénégalaise donc n'a enregistré aucun de ses enfants à l'état civil, invoquant le coût de la démarche. Charlie Dupio, combien ça coûte exactement d'enregistrer son enfant?
Alors en fait, ça dépend de l'âge de l'enfant. Quand il a moins d'un an, l'enregistrement coûte en général 300 francs CFA, c'est-à-dire 50 centimes d'euros. Mais le prix augmente en fait avec l'âge. Passé un an, il faut payer 5200 francs CFA, c'est-à-dire près de 8 euros. Alors avec les audiences foraines, les juges se déplacent dans les villages le temps d'une journée. Ils délivrent des actes de naissance avec des prix variables qui sont souvent moins chers que 8 euros et même parfois gratuits. Par exemple, quand l'UNICEF à Kolda finance le déplacement des juges pour ces audiences en public.
Et dans ce quartier de Cynthia à Kolda qui couvre quelques rues, 549 enfants sans identité ont été recensés.
Oui, et pour empêcher des déscolarisations en masse, certains enseignants en primaire s'investissent en dehors de leurs heures de classe. C'est le cas de l'instituteur Mamadou Diédiou.
Présentement, là où nous sommes dans ma classe, c'est de B.
On voit là un certain nombre de pupitres qui sont serrés dans la classe. Combien d'élèves vous avez?
Oui, j'ai 84 élèves. Un nombre d'élèves vraiment important.
On ressort dans la cour de l'école.
Il y a au moins une quarantaine. C'est la moitié des élèves qui ne sont pas inscrits à l'état civil. C'est actuellement notre combat. Nous avons créé une association pour ça aussi. Je fais partie de cette association. On recense, on demande aux élèves qui n'est pas inscrit ou bien qui n'a pas un extrait de naissance. Les élèves lèvent la main un à un. Et on voit qu'en faisant le tour des classes, nous avons un nombre important d'élèves qui ne sont pas inscrits à l'état civil. Quand l'enfant arrive au CM1 et il n'a pas d'extrait de naissance, on commence à bousculer les parents. On convoque les parents. S'ils ne font rien, nous prenons nos propres initiatives pour essayer de faire tout pour que les enfants aient ces actes de naissance. Il suffit que la maman fournisse son acte de naissance. Il nous prend nous-mêmes enseignants pour être témoins. On monte une requête qu'on dépose au niveau du tribunal. L'enfant peut avoir son acte de naissance.
Encore faut-il que les parents aient un acte de naissance et soient eux-mêmes enregistrés, ce qui n'est pas le cas pour
oui.
Tout le monde.
Il faut un des deux pour que l'enfant puisse avoir un acte de naissance. Actuellement, dans l'école, la majeure partie des enfants ont déjà leur requête déjà sur place au niveau du tribunal.
Qu'est-ce qui se passe pour les enfants de cette école qui arrivent en CM2 et n'ont toujours pas d'acte de naissance à la fin de l'année?
Ils ne peuvent pas faire l'examen.
C'est arrivé à combien d'élèves, par exemple, l'année dernière?
15 élèves sur les 100 élèves qui étaient au CM2. Donc il y avait 15 élèves qui n'avaient pas fait l'examen. Et ces élèves, cette année, ils feront l'examen parce que les parents ont cherché les extraits pour eux.
Donc ils redoublent en fait le CM2?
Ils redoublent le CM2 pour pouvoir faire passer l'examen. Parce que moi, chaque jour, chaque semaine, je rappelle aux élèves, dites à vos parents, vos enfants n'ont pas d'état civil. Essayez de régulariser avant qu'ils arrivent au CM2. Parce que faute d'état civil, il ne fera pas d'examen. Donc, c'est votre faute. Parce que l'enfant n'a pas demandé à être né. Il faut que tu cours derrière ce parent.
En tout cas, vous déposez les requêtes pour certains parents.
Pour certains parents qui ne le font pas.
Vous avez le temps de faire ça pour tous les élèves?
Oui. Quand on est instituteur, on est là pour la protection de l'enfant. Et c'est les enfants même qui incitent leurs parents à faire des requêtes pour qu'ils puissent avoir l'état civil. Moi, des fois, des enfants me disent « Monsieur, il faut venir à la maison, tu vas discuter avec papa à la maison. » À 11h, c'est l'heure de la récréation. J'ai 30 minutes de pause. Je dis au directeur, je vais aller dans telle maison voir tel parent. Par-delà, je commence à discuter avec lui. Je dis, toi, tu es là, tu as une carte d'entrée. Tu peux voyager là où tu veux. Tu peux retirer ton argent quand on t'envoie de l'argent. Mais est-ce que tu sais, ton enfant là, il ne peut pas quitter Kolda. Et il ne peut pas faire aucune transaction quand, par exemple, son frère lui envoie de l'argent, par exemple, ailleurs. Il ne peut pas le retirer. Le rôle de l'école, c'est tout simplement de continuer de sensibiliser les parents davantage. Au fait, c'est au niveau de l'école qu'on arrive à repérer si ces enfants. Les enfants doivent voyager, ils doivent voter, ils doivent aller à l'école. Donc, il faut impérativement une identité. Donc, il faut continuer à sensibiliser, comme nous le faisons déjà. Il faut que tout le pays, tout le Sénégal aussi, chacun au niveau de son coin, faire la même chose pour qu'on puisse arriver à éradiquer ça.
Plus aucun enfant sans identité en 2017, c'est l'engagement pris par le gouvernement sénégalais. Avec quels moyens, Charlie Dupuyot ?
Essentiellement des fonds qui viennent de l'Union européenne. 5 millions d'euros sont destinés à la réforme de l'état civil. L'UNICEF, avec le soutien de l'AFD, l'Agence française de développement, contribue aussi avec 1 800 000 euros. Pour vous donner une idée, une seule audience foraine avec un juge et toute une équipe administrative coûte 7 600 euros à organiser. Yves-Olivier Kassoka est spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF Sénégal. L'UNICEF qui a révélé le scandale de ces 53 000 enfants sans identité en CM2 l'année dernière.
En 2015, nous avons pu, à la suite du recensement exhaustif au plan national qui a été fait, de montrer la situation aux plus hautes autorités de ce pays pour dire oui, le chiffre il est là, 53 000, c'est quand même alarmant.
Enfants en CM2 qui n'avaient pas d'acte de naissance.
C'est alarmant. Il faudrait faire quelque chose au plan national, une réponse globale qui va permettre à terme d'éradiquer cette situation.
Donc il a quand même fallu que l'UNICEF lance l'alerte sur cette question et dise au gouvernement sénégalais de s'en occuper comme d'une priorité.
Absolument. La décision a été prise de demander à tous les présidents de tribunaux dans ces différentes localités d'accélérer et de faciliter l'organisation de ces audiences foraines en les rendant gratuites. Et le coût a été pris en charge par les partenaires techniques et financiers, l'UNICEF, l'Union européenne. Les frais que devaient payer les parents ont été levés.
Exceptionnellement, parce que normalement, ils ont des frais à payer. Absolument. Dans ce cas d'audience foraine.
Absolument, exceptionnellement. On aurait pu éviter d'arriver à cette situation.
On a quand même l'impression d'avoir une vraie bombe à retardement pour l'éducation au Sénégal. 53 000, c'est quand même un chiffre très important.
Bon, retardement qui a été désamorcé, je veux dire, parce qu'ils ont tous été, ils ont été enregistrés, heureusement.
L'année dernière,
ils ont pu être enregistrés à l'état civil. En 2016, déjà au dernier recensement qui sont faits, nous sommes à 33 000 à peu près. Et il faudra travailler à régulariser leur situation.
Mais à court terme, il y aura certainement d'autres bombes à désamorcer chaque année.
Absolument. Jusqu'à 3-4 ans, je pense qu'on va continuer à travailler sur le désamorcement de cette, je m'excuse de l'expression, de cette situation. Il faut agir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est s'assurer déjà que le flot d'enfants qui arrivent, ceux qui naissent, sont enregistrés à 100%, mais s'assurer aussi que ceux qui sont déjà dans le cycle sont régularisés. C'est un investissement lourd, il faut revoir tout le système. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la Casamance au sud, où ces acteurs sont formés. Ces initiatives qui sont développées dans certaines localités, dans certains départements, il faudra les porter à l'échelle nationale pour que d'ici 6 ans, on ne connaisse plus ces situations.
Plus un seul enfant fantôme en 2022 au Sénégal, donc objectif certainement plus réaliste que celui du gouvernement sénégalais qui vise 2017. L'enregistrement des naissances est une priorité, mais pas seulement en Casamance, aussi dans la région de Kaffrine ou encore autour de Tambacounda à l'est, bref, dans les régions évidemment les plus rurales. Alors comment atteindre les enfants qui ne vont même pas à l'école? Il faut aussi former les élus locaux, organiser des audiences foraines. On va parler de tout cela, mais bien au-delà du cas du Sénégal. Nous allons parler des enfants sans identité dans le monde avec Olivier Duval du BICE et bien sûr tous vos appels, les voisins, les voisines. Si vous vous sentez concerné de près ou de loin par le sujet, appelez-nous dès maintenant pour participer à l'émission 33 1 84 22 71 71. Suite de l'émission sur les enfants sans identité juste après le flash dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, suite de notre émission sur les enfants sans identité. Près de 230 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde n'ont pas été enregistrés à la naissance. Après le reportage de Charlie Dupuis en Casamance au Sénégal, où près de la moitié des enfants ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, nous en discutons avec vous, Olivier Duval. Vous êtes président du BICE, le Bureau international catholique pour l'enfance, ONG de protection des droits de l'enfant. Peut-être quelques mots de réaction par rapport au reportage.
D'abord, c'était un reportage très intéressant parce qu'il est au contact de la réalité du quotidien. Parce que c'est un problème qui n'est pas un problème théorique, c'est un problème extrêmement concret et pratique. Mais il faut reconnaître que le Sénégal n'est pas du tout le pire. En Zambie, vous avez 14% des enfants enregistrés. Mais en Somalie, ils sont à 3%. Ça veut dire que 97% des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance.
République démocratique du Congo, un quart des enfants enregistrés
et
à la
RDC,
naissance.
C'est un quart des enfants. Et je crois qu'il faut quand même... On a beaucoup parlé d'éducation, ce qui est évidemment vital, extrêmement important, parce que c'est l'avenir des enfants. Il n'y a pas que l'éducation, ça commence par la santé, parce qu'il n'y a pas d'accès au système de soins si vous n'êtes pas enregistré. Et puis, pire que ça encore, un enfant qui n'est pas enregistré, il n'est pas défendu par l'État, puisqu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'on peut le vendre, parce qu'il faut employer le mot, c'est-à-dire c'est la traite des enfants, c'est la prostitution des enfants, c'est le travail des enfants. Tout ça, c'est facilité par le fait qu'il n'y a pas d'état civil, puisque l'enfant n'existe pas, au fond.
Donc vous avez des choses... d'engager des recherches par la police, par exemple.
Ah ben non, non. Puis la police s'en fout. C'est un enfant qui n'existe pas. Et c'est une chose. Et je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. Il y a aussi d'autres éléments. Les mariages précoces, par exemple. Dans beaucoup de pays, l'âge du mariage, c'est 18 ans. Si vous n'êtes pas enregistré à la naissance, on peut vous marier à 14 ans. Puisque vous n'existez pas, c'est toujours la même histoire. Et c'est cité dans votre reportage. Et j'avais envie de réagir à ce moment-là en disant « Mais quel est l'âge légal du mariage au Sénégal ?»
Bien sûr, voilà. Effectivement, donc, quand on n'a pas d'identité, on n'a pas d'âge non plus.
On n'a pas d'identité, on n'a pas d'âge. On est une chose, on peut être vendu, on peut être exploité. Et bien sûr, on n'a pas accès à l'éducation, puisqu'on ne peut pas avoir d'examen. Donc c'est abominable, en réalité.
Alors justement, il va falloir qu'on parle des solutions pour donner un avenir à ces enfants. Comment simplifier les procédures et sensibiliser les familles? Bien sûr, les voisins, je vous redonne le numéro de téléphone. Vous avez la parole au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais vous lire le message d'Awa à Dakar qui réagit. Au Sénégal, cette année, nous dit Awa, l'administration a accepté des candidatures d'élèves non déclarés à la naissance pour l'examen d'entrée en 6e, Charlie.
Oui, alors en fait, ça c'est tout récent. Ça date de la semaine dernière, puisqu'on avait les examens de fin d'études primaires la semaine dernière au Sénégal. En fait, le ministère sénégalais de l'éducation a donné l'instruction aux inspecteurs d'académie de laisser les enfants sans identité passer l'examen et pour pouvoir s'inscrire ensuite en 6e, même s'ils n'avaient pas d'acte de naissance. Alors évidemment, ça résout le problème temporairement.
C'est très bien, mais ça ne règle pas le problème de fin.
Voilà, parce qu'on demande aux parents d'ensuite enregistrer leurs enfants, mais ce n'est pas sûr qu'ils vont le faire. Et puis ensuite, ça va évidemment poser des problèmes s'il passe le baccalauréat et puis plus tard, s'il veut faire des études supérieures.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur, Ibrahima, qui est près de Kaolack, dans le centre du Sénégal. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de 7 milliards de voisins.
Soyez le bienvenu, Ibrahima. Vous êtes directeur d'école depuis 13 ans à Nioro-du-Rip.
Oui, c'est ça.
Nous vous écoutons.
Voilà, donc je voudrais témoigner par rapport au thème d'actualité. Voilà, donc nous avons ces problèmes-là que nous vivons au quotidien en tant que directeur d'école.
Oui.
Parce que souvent les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils arrivent sans bulletin de naissance. Parce qu'au Sénégal, quand même, il faut le dire, l'extrait de naissance n'est pas exigé à l'inscription. Et du coup, quand ils arrivent au CM2, donc nous sommes confrontés à un problème d'état civil, il se trouve qu'ils n'ont pas de bulletin. Mais quand même, nous anticipons souvent quand l'élève arrive en classe de CE2. Donc, nous faisons le tour des classes, nous recensons les élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance, nous convoquons les parents et nous leur demandons de tout faire, n'est-ce pas, avant les 2 ans, avant que l'élève arrive au CM2.
C'est pour ça. Trouver un extrait de naissance. Vous sensibilisez donc les parents 2 ans avant l'examen en disant attention, attention, là, il faut s'occuper de déclarer votre enfant.
Voilà, exactement. Mais souvent, la réaction est très timide. Les parents ne réagissent pas.
Oui.
Donc, une fois en classe de CM2, donc la pression s'abat sur nous, directeurs. Mmh. C'est nous qui sommes avec les enfants à longueur d'année.
Oui.
Voilà.
Mais quand vous dites réaction très timide, que vous disent les parents? C'est réellement donc un frein par l'argent, puisque une fois qu'on régularise son enfant passé un an, évidemment, ça coûte nettement plus cher. Charlie Dupio nous donnait les sommes. On est autour de 8 euros, si je conserve, j'ai mémorisé en euros la somme. Hein, oui. C'est cher.
Oui, oui. Oui, mais souvent, je dis que c'est une négligence. Parce que, Emmanuel, figurez-vous, quand un enfant naît au Sénégal, le papa ne dépense pas moins de 500 000 francs pour organiser son baptême. Alors, ce même parent-là ne peut pas prendre 300 francs pour aller déclarer son enfant à l'état civil. Bon, c'est incompréhensible.
Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'un baptême, ça coûte en gros, enfin je veux dire, avec les festivités et l'attitude sociale que cela implique, ça coûte 500 000 francs CFA, c'est-à-dire plus de 700 euros?
Parfois même plus. Parfois même plus. Donc, alors, ce même parent ne peut pas enlever 300 francs pour trouver un extrait de naissance à son enfant. Bon, du coup, la pression retombe sur nos directeurs d'école. Donc, c'est nous qui faisons tout. Quand l'État organise des audiences publiques, des audiences foraines, donc c'est nous, directeurs d'école, qui conduisons les enfants en plus chez le juge. N'est-ce pas? Le parent n'est même pas là. Donc, c'est nous qui conduisons les enfants chez le juge et nous témoignons, n'est-ce pas, pour qu'il ait accès à une pièce d'état civil.
Vous semblez passablement irrité de cette situation, Ibrahima.
Mais c'est irritant chaque année, figurez-vous. Chaque année. Cette année, dans un département du Sénégal, Kolda, pour ne citer que celui-là, il y a 1534 candidats qui n'ont pas eu d'extrait.
Le gouvernement, votre ministère, le ministère de l'Éducation, vous demande de vous impliquer dans ces démarches ou pas? Par exemple, d'amener un élève chez le juge?
Oui, il nous le demande. Hein. Et aussi, il faut dire qu'au Sénégal, l'État fait beaucoup d'efforts de sensibilisation. Voilà, il arrive même ils réduisent les coûts.
Mais alors,
quelquefois, quand les...
Oui. Oui, mais alors attendez-vous, là, depuis quelques jours, enfin, les examens ont eu lieu de fin d'école primaire il y a quelques jours. Et donc, une auditrice nous disait, confirmée par Charlie Dupio, que cette année, effectivement, on a autorisé les enfants sans identité à se présenter à l'examen. Chez vous, ça a été le cas ou pas?
Oui, exceptionnellement.
Ah, c'est exceptionnel.
Cette année, ça a été le cas.
Ah, oui. D'accord. Donc, on n'est pas au bout du chemin, là.
Voilà, tout à fait.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Ibrahima. Est-ce que vous souhaitez réagir, Olivier Duval, à l'intervention de cet auditeur, directeur d'école?
Je crois qu'il est extrêmement important que pour les États, ils facilitent la vie des gens. Parce que j'ai l'impression, à entendre Ibrahima, que... Au Sénégal, c'est relativement facile, mais vous avez beaucoup de régions d'Afrique, mais pas seulement d'Afrique, en Inde, dans beaucoup d'endroits dans le monde, où il n'y a pas à proximité d'endroits pour enregistrer les enfants. Donc comment vous faites? Il n'y a personne, et donc les parents n'enregistrent pas. Vous avez des cas où, par exemple, les parents vont à l'hôpital, mais ils n'ont pas les moyens de payer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'en vont avant la fin et donc ils sortent. La mère sort alors qu'elle n'a pas son certificat de naissance. Oui. Et si elle n'a pas le certificat de naissance, elle ne pourrait pas aller.
C'est exactement le témoignage d'un auditeur qui nous a posté ce message. Effectivement, Francis à Libreville, qui est au Gabon, qui nous dit « Les enfants ne sont pas déclarés parce que les parents fuient les hôpitaux sans payer. »
Absolument.
Fait, hein. Et dans les villages, là, c'est plutôt l'ignorance, le manque d'informations.
Et puis, vous avez des cas, je citerai un cas à la Chine, par exemple, avec la politique de l'enfant unique. Lorsqu'il y avait un deuxième enfant, on ne le déclarait pas. Et ces deuxièmes enfants, ces enfants pas déclarés, ils ne vont pas à l'école, ils sont exploités, ils travaillent. Tout ça parce que les gens ne veulent pas pour des raisons parfois de discrimination. Vous avez aussi des cas de minorités qui ne veulent pas aller déclarer leurs enfants parce qu'ils craignent la discrimination. Alors, ce n'est pas forcément le cas au Sénégal, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément d'endroits dans le monde où la discrimination est un problème et empêche, freine les parents et d'aller déclarer les enfants. Donc il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui font qu'on ne déclare pas les enfants.
On a pas mal de réactions, évidemment, des voisins sénégalais. Rokaya de Dakar nous dit « Mais pourquoi est-ce qu'on attend jusqu'au CM2 pour demander l'acte de naissance aux parents ? L'élève devrait être en règle dès l'inscription en CP. » Oui, mais enfin, on a eu quand même la politique de l'éducation universelle, de la scolarisation pour tous. Sinon, on ne s'en sortirait pas.
Oui, mais de nouveau, vous avez le problème. Si vous n'avez pas enregistré votre enfant à la naissance, ou théoriquement, c'est gratuit ou demi-gratuit, comme a dit Charlie, après, ils font un jugement supplétif. Et un jugement supplétif, c'est cher,
ouais,
c'est compliqué. Mmh. Et puis, vous ne l'aurez pas. Il y a le prix officiel et puis il y a le prix officieux. Parce que si vous voulez aller voir un juge pour avoir un jugement supplétif et que le juge n'a pas envie, enfin voilà, il y a plein de difficultés. Donc si vous ne l'avez pas fait au départ, ça devient extrêmement compliqué après.
Voilà, bon, et... si un juge nous écoute, hein, bien sûr qu'il n'hésite pas aussi à témoigner au 33 1 84 22 71 71. Souleymane à Tambacounda nous dit ce fléau demeure toujours. Moi-même, je n'ai pas pu être enregistré à ma naissance dans les années 80. J'ai dû passer devant le juge dans les années 2000 pour être déclaré. Et ça s'est fait avec beaucoup de difficultés. Victor à Tambacounda aussi, dans la région, nous dit-il, on peut recenser des centaines d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance et qui sont donc exclus après le CM2. Si vous pouviez d'ailleurs nous orienter vers des organismes qui informent les parents pour enrayer leur ignorance, ça serait bien. Et puis il y a aussi d'autres réactions d'auditeurs. Souni, qui est à N'Djamena, nous dit, le gouvernement tchadien a mis en place des actes de naissance gratuits pour les nouveau-nés, accessibles jusqu'à leur 3 mois. C'est toujours le même problème, il faut se dépêcher. Mais les actes de naissance, c'est un peu comme les passeports, nous dit Souni, sont faits lorsqu'on se rend compte qu'on en aura besoin en urgence. Adilou à Yaoundé au Cameroun nous dit, la base du problème, ce sont les parents, ils prétextent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer l'acte de naissance de leur enfant, et il rejoint le témoignage de ce directeur d'école. Alors, je ne sais pas si en même temps il faut stigmatiser les parents. C'est évident qu'il y a aussi des questions d'argent très valables pour des parents extrêmement pauvres.
Voilà, et des questions d'argent et des questions de pratique, si vous voulez. Si vous ne pouvez, si vous n'avez pas de
lieu... Vous accouchez à la maison, vous êtes dans un village...
Comment vous faites ?
Il n'y a pas seulement le prix de la déclaration,
voilà.
Effectivement.
Voilà. Et d'ailleurs, il y avait eu des actions qui avaient été prévues par l'ONU, qui avaient recommandé, par exemple, de décentraliser la déclaration des enfants et d'autoriser, dans certains pays, ou des matrones, des sages-femmes, à... remplir les papiers qui pourraient ensuite être envoyés pour déclarer
l'enfant.
C'est ça,
donc une déclaration de naissance qui se ferait au moment d'un accouchement informel.
Voilà,
hein.
Un accouchement informel dans un village et qu'ensuite ces papiers seraient transmis pour permettre... Alors, il y a d'autres choses, comme par exemple, on est en train de travailler à faire des déclarations de naissance par téléphone mobile. C'est un peu la même idée que les matrones.
Où est-ce que ça se fait, ça, justement ?
Alors, il y a des tentatives qui sont faites dans quelques pays, y compris au Mali, par exemple. Alors, c'est nouveau, il faut le mettre en place. Mais le paradoxe, c'est que presque tous les parents ont des téléphones mobiles, alors que la majorité des parents n'enregistrent pas leurs enfants.
C'est ce que j'allais dire. C'est tellement simple aujourd'hui de virer de l'argent par le mobile banking. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à progresser sur la déclaration des naissances ?
Parce qu'il faut une réglementation.
Et puis, il y a une logistique aussi, quand même... administrative,
voilà,
néanmoins.
Il faut que les États acceptent que ce système fonctionne. Mais on va y arriver. Et je crois qu'il y a d'abord et avant tout une sensibilisation des parents. Et c'est ce qu'on fait le BICE avec ces associations membres au Mali, par exemple le BNCE au Mali, le BNCE au Tchad, le droit des enfants en Côte d'Ivoire, etc. On a fait beaucoup d'actions de sensibilisation pour expliquer aux parents que c'est extrêmement important. Parce que souvent, les parents...
Et que ça se fasse dès la naissance, surtout.
Ah ben, si vous ne le faites pas à la naissance,
Madame,
c'est beaucoup plus
enceinte,
cher et beaucoup plus compliqué.
N'oubliez pas de déclarer votre enfant à la naissance. Alors, il y a tout de même un voisin béninois qui souligne un problème intéressant à Degbola, qui est à Sakété, qui est au nord de Cotonou. Il nous dit, parfois, établir un acte de naissance peut s'avérer compliqué pour certains enfants, même si celui-ci est gratuit. Par exemple, on ne sait pas qui est le père de l'enfant, ou il s'agit de grossesse non désirée. Au Bénin, ce genre de cas, nous dit Adegbola, devient fréquent. Je pense que le fait qu'une partie de la population soit illettrée et qu'il manque des hôpitaux, évidemment, dans les zones reculées du pays, n'aide pas. Mais c'est vrai que les situations familiales sont complexes aussi. Pour déclarer un enfant à la naissance, qu'est-ce qu'il faut concrètement, en général, dans la plupart des pays ?
Ah bah, il faut un certificat de naissance, c'est-à-dire il faut que l'hôpital, la matrone, déclare qu'un enfant est né.
Ouais.
Mais on n'a pas besoin de savoir le nom du père.
Donc on n'a pas besoin, d'accord, on n'a pas besoin du père en théorie.
On n'a pas besoin du père. Alors après, et en particulier, on fait cette action à Bamako, où il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent de la campagne, qui sont mises comme employées de maison, qui se font séduire par le maître de maison, qui deviennent enceintes. Donc on s'assure que les enfants sont déclarés. Et puis après, on va voir les patrons pour les obliger, les forcer à reconnaître l'enfant. Mais ça, ce n'est pas indispensable pour la déclaration de naissance. C'est très important pour l'avenir de l'enfant, mais ça n'empêche pas de déclarer la naissance.
Un message aussi de Juno à Port-au-Prince. En Haïti, nous dit Juno, dans les milieux reculés, les enfants doivent être baptisés avant d'être enregistrés. Ce sont les prêtres ou les pasteurs qui entreprennent les démarches administratives, mais la population pauvre est très réticente à faire baptiser ses enfants parce que là aussi, ça engendre de nombreuses dépenses, donc évidemment pas des dépenses administratives. On a évidemment jusqu'à maintenant beaucoup parlé de l'Afrique, mais il faut tout de même bien préciser que l'Afrique n'est pas le seul continent touché par le problème de la déclaration des naissances. On a 44% des enfants non déclarés à la naissance qui sont en Asie du Sud. Hein, donc,
voilà, l'Asie donc, du Sud est un autre des pays où il y a exactement le même problème.
Oui, autre région.
L'accessibilité au bureau d'enregistrement, le coût officiel ou officieux pour faire enregistrer les enfants, et puis plein de problèmes de discrimination. Si vous êtes Rohingya en Birmanie, vous n'avez pas envie de faire déclarer votre enfant. Et ça, c'est un autre des problèmes.
Le problème des minorités. On n'a pas encore parlé des enfants au cœur des conflits. Évidemment, je pense au cas des enfants syriens qui naissent sur le sol libanais. Plus de 42 000 enfants, selon les Nations Unies, nés de parents réfugiés syriens, sont sans identité aujourd'hui au Liban. On est en train de fabriquer une future génération d'apatrides. Ça nous rappelle les Palestiniens.
Absolument. On est exactement dans la même situation. Alors, on travaille au Bureau international catholique de l'enfance de s'occuper de ces enfants en formant des tuteurs de résilience parce que c'est des enfants qui ont vécu des horreurs. Et donc, si on ne s'occupe pas d'eux pour qu'ils surmontent les difficultés qu'ils ont vécues avant d'arriver dans les camps, on va en faire une génération non seulement perdue, mais complètement massacrée d'un point de vue psychologique.
Mais pourquoi ces enfants n'ont pas d'identité ? Les enfants, la société syrienne, tout le monde était déclaré à la naissance, donc il n'y a pas de problème culturel. Ces enfants qui naissent sur le sol libanais, comment se fait-il qu'il n'ait pas la possibilité d'être déclaré ?
Tout simplement parce que l'État syrien est failli et ils ne sont plus en Syrie. En Syrie, si vous êtes à Alep sous les bombardements, vous pensez bien que le bureau d'enregistrement des naissances fonctionne parfaitement.
Oui. Non, mais je parlais du sol libanais. Là.
Et sur le sol libanais, ils sont souvent rentrés clandestinement, donc ils ne sont pas l'État libanais ne les a pas forcément identifiés. Donc ça, il y a tout un travail à faire pour faire en sorte que ces enfants, tout simplement, on s'occupe d'eux.
C'est ça, et il faut accoucher là aussi dans une structure médicalisée pour être déclaré au Liban.
Voilà, alors il y a plein d'associations qui s'occupent de ces enfants, mais il faut bien voir que les priorités sont multiples, que l'argent est rare et que vous avez des dizaines, des centaines de milliers d'enfants dont il faut s'occuper. Mais c'est une priorité, parce qu'encore une fois, ces enfants qui n'ont pas d'identité, et on les retrouve, ils sont victimes de toutes les formes de traite. Je vous rappelle la nouvelle qui est apparue il y a quelques mois, dans laquelle les enfants migrants mineurs isolés, ils disparaissent. En Europe, ils disparaissent. Parce qu'ils arrivent sans papier, ils sont disparus. Les polices italiennes, françaises, allemandes sont démunies. Ils n'existent pas. Comment est-ce qu'on va les rechercher ? Et donc, ils deviennent la proie des mafias. Et je ne vous dis pas ce qui leur arrive. Et ça, de nouveau, c'est un problème d'identité. L'identité n'est pas un problème secondaire du tout. On pense souvent qu'il faut d'abord nourrir, soigner. Mais avoir une identité, avoir des papiers, c'est également vital pour votre avenir.
C'est ça. Et c'est un sujet en réalité très politique parce que l'enregistrement des nouveaux-nés syriens au Liban, c'est un sujet politique. C'est
évidemment
pour le gouvernement libanais.
Voilà.
Quelles sont aujourd'hui les pistes de progrès, les pays qui ont mis en place les réformes les plus efficaces comment vous voyez l'avenir et les pistes d'amélioration ?
Alors, je crois qu'il faut d'abord, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, mais faciliter la vie des parents. C'est-à-dire faire en sorte que de déclarer son enfant à la naissance, ce soit facile. Après, et sans coût, évidemment. Après, je crois que si votre enfant n'a pas été déclaré à la naissance pour mille et une raisons, il faut faciliter la solution des jugements supplétifs qui sont souvent très chers. Et je pense que l'exemple qu'a cité Charlie au Sénégal est un bon exemple. C'est-à-dire que les juges vont sur le terrain. Parce qu'encore une fois...
Vous avez vu combien ça coûte. Ça coûte plus de 7000 euros à la journée avec une équipe administrative. C'est quand même très cher.
C'est très cher. Pour enregistrer, c'est tellement,
certes, quelques centaines d'enfants.
Mais c'est tellement important. Oui. C'est ça, je crois qu'il faut bien réaliser que l'avenir d'un enfant qui n'est pas enregistré est extrêmement perturbé et va être extrêmement difficile. Et donc, ça vaut la peine de dépenser cet argent pour qu'on puisse faire des jugements supplétifs. Bon, après... il peut y avoir, encore une fois, on a cité des solutions par le téléphone mobile. On peut aussi déléguer, les États peuvent déléguer, par exemple, aux chefs locaux, le pouvoir d'enregistrer.
Tout ça. Est-ce que les élus locaux aussi, aujourd'hui, sont suffisamment sensibilisés à ces problématiques-là ou ça reste encore un problème de l'État centralisé en général ?
C'est souvent ça. Donc les élus locaux disent « c'est pas mon problème, c'est l'État ».
Et le problème aussi en Casamance, c'est que beaucoup d'élus locaux ne savent pas vraiment comment faire pour organiser une audience foraine. Donc en général, en fait, il faut qu'ils en réfèrent au ministère de la Justice, donc c'est pas du tout décentralisé.
Ça repart à Dakar, oui.
Et donc il faut qu'ils sachent comment faire en fait. Et donc même les élus locaux en général sont complètement démunis face aux centaines d'enfants de leur localité qui n'ont pas d'identité.
C'est ça, il n'y a pas de travail d'équipe avec les juges, de contact facilité finalement.
Voilà. Alors il y a un autre problème qu'on n'a pas mentionné aussi. C'est que la situation de l'état civil dans beaucoup de pays, je ne parle pas spécifiquement du Sénégal, là, est absolument désastreuse. Parce que dans beaucoup de pays, ça n'a pas été une priorité. Donc les registres sont mal tenus. Ils ont parfois été perdus. Et donc il y a toute une action de numérisation qui doit être faite parce que cette numérisation, elle permet de faciliter les choses, d'assurer la préservation. Parce que je peux vous assurer que si vous allez au Libéria, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de registre de naissance. Ils ont été détruits. Donc, y compris si les enfants ont été enregistrés, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui encore, ils ont une identité. Donc, vous voyez, les problèmes sont énormes, mais je pense que la numérisation, l'informatique, le téléphone mobile sont des solutions pour aider et faciliter la vie des familles. Parce qu'il ne faut pas critiquer toujours les familles. Je pense qu'elles sont souvent dans des situations extrêmement difficiles et que c'est tellement compliqué de déclarer un enfant qu'à la fin, on ne le fait pas.
C'est clair aussi que passer d'une déclaration à la naissance qui est très simple, même si en fait le problème c'est l'éloignement géographique d'un bureau pour déclarer, mais c'est globalement peu coûteux, à une déclaration a posteriori, où là le prix est x10, x100. Enfin, comment se fait-il aussi qu'on arrive à un système de déclaration qui automatiquement, la plupart du temps, doit passer finalement par la justice, sachant que dans tous ces pays-là, les juges sont débordés, ont des affaires à juger bien plus cruciales.
Si on prend le cas de l'Afrique, ils ont hérité du système juridique français. Et si vous n'avez pas été déclaré à la naissance en France, qui est évidemment extrêmement rare, vous devez passer devant un juge. Et donc, si vous transposez le code civil français au Sénégal, vous vous retrouvez devoir passer devant un juge. C'est logique.
Est-ce que ça aussi, en Asie, ça fonctionne de la même façon ou pas ? Vous citiez certains cas.
En Asie, si on prend l'Inde, c'est le système juridique britannique qui a perduré et on a exactement le même problème.
C'est-à-dire que la régularisation est, elle aussi, extrêmement compliquée.
C'est extrêmement compliqué. Difficile, lent, et les gens ne le font pas finalement. Donc c'est vraiment important que la déclaration se fasse à la naissance.
Ouais.
Ça, il faut être sensibilisé à ça. Et il faut en parler.
Oui, exactement. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Notamment, je suis sûre que beaucoup d'auditeurs nous écoutent et se disent « Bon, ben moi, par exemple, je participe à financer l'école pour tel ou tel enfant dans ma famille », sans se préoccuper finalement si la première dépense indispensable, si ça n'était pas justement d'aller financer une régularisation auprès de l'État civil, non ? Ça apparaît rarement dans les priorités.
Oui, alors que c'est une priorité pour l'éducation. Encore une fois, si vous voulez avoir un examen sérieux, il faut être sûr que l'enfant à qui vous donnez le diplôme est bien celui qui a passé l'examen. Donc vous êtes un peu forcé de passer par l'état civil. Et puis je rappelle encore une fois, tous les aspects de traite sont absolument désastreux pour les enfants non enregistrés. Et ça, c'est un problème monstrueux et qu'on oublie. Il y a aussi un aspect qu'on a tendance à négliger, c'est que lorsqu'un État n'a pas enregistré les enfants, je reviens à la Somalie, 3% d'enfants enregistrés, le Libéria, 4%, ça veut dire que toutes les statistiques sur lesquelles on base le développement sont fausses. Donc vous avez les objectifs du millénaire, par exemple, dans lesquels on dit il faut que tous les enfants soient passés par l'école primaire. Et bien, vous avez des pays, je ne citerai pas de nom, qui vous disent « Ah, mais moi, 90% de mes enfants sont passés par l'école primaire. » Oui, 90% des enfants déclaraient. Et comme ces enfants déclarés représentent 15%, et bien, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les dernières poches, de toute façon, de résistance par rapport à la scolarisation universelle, ça se fait effectivement dans le bassin des enfants non déclarés. Et c'est tout à fait corrélé, mais vous l'avez souligné aussi, c'est tout l'accès à la santé la plupart du temps. Les enfants syriens nés sur le sol libanais, par exemple, n'ont pas accès aux soins, hormis par les organisations humanitaires, n'ont pas accès à l'hôpital. Et ça aussi, c'est quand même un vrai problème. Merci beaucoup à vous, Olivier Duval. Je rappelle que vous êtes président du BICE, le Bureau international catholique pour l'enfance. Merci à vous. Charlie Dupio pour le reportage au Sénégal réalisé grâce au fonds Muskoka. Vous pouvez aussi consulter, les voisins et les voisines, le rapport de l'UNICEF qui sort aujourd'hui sur l'équité, la situation des enfants dans le monde en 2016. Merci pour vos témoignages et vos questions, les voisins et les voisines. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain avec la visite du coach Didier Akouété. Il vous écoute, il vous conseille pour monter votre petite entreprise et bien sûr faire aboutir vos projets pour l'avenir de l'Afrique. Jeunes diplômés ou plus expérimentés, surtout vous nous contactez dès maintenant sur Facebook ou bien par mail 7milliards@rfi.fr. À demain.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.